n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, bonsoir, Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Onde Femmes, Radio Zone. Comme tous les mercredis soirs à partir de 18h30, c'est la pleine lune dans vos oreilles. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 04 50 40 51 41 059, depuis la Suisse voisine. Dans quelques instants, c'est les nouvelles, les informelles de la pleine lune. À tout de suite. Radio Pleine Lune, Radio Zone, Onde Femmes, nos nouvelles. En Algérie, alors que la terreur et la violence continuent à ensanglanter les rues des grandes villes et de la campagne, une centaine de femmes sont descendues ce week-end pour manifester à Blida, dans un quartier particulièrement touché par les attentats, pour crier leur volonté de paix et pour réitérer leur refus de la violence et de leur enfermement. Quand on sait que les violences dernièrement ont fait plus de 250 morts depuis le début du Ramadan, on ne peut que saluer le courage désespéré de ces femmes. Alors que la plupart des pays européens s'apprêtent à renvoyer les réfugiés bosniaques dans leur pays désormais pacifié, les Serbes de Bosnie refoulent les candidats au retour. La première opération de retour de réfugiés bosniaques menée par les organisations internationales s'est soldée ce dimanche 26 janvier par un brutal échec dans le village de Gajevi au nord-est du pays. Une foule serbe a attaqué des familles musulmanes qui avaient reçu l'autorisation du Haut Commissariat pour les réfugiés de s'y réimplanter. Au début de l'hiver, des affrontements avaient entraîné la mort d'un candidat au retour. Et la semaine dernière, la police serbe avait miné les accès au village pour décourager les musulmans de traverser l'ancienne ligne de front. L'opération retour à Gajevi était considérée comme un test important par le HCR et les Occidentaux. Les forces de l'OTAN s'étaient fortement impliquées dans ce processus de réinstallation des réfugiés en intensifiant ses patrouilles dans les secteurs. Les Serbes avaient donné leur accord pour un retour organisé. 36 familles devaient rejoindre Gajevi sans armes, avec des matériaux destinés à rebâtir les maisons, dynamiter un incendier lors des campagnes de nettoyage ethnique. Peil, le fief des séparatistes serbes, n'a pas tenu parole. L'opération de minage avait été effectuée par les hommes en uniforme de la police serbe. Malgré la présence de soldats américains et russes aux abords du village, les Serbes ont attaqué dimanche la foule en tonnant des chants nationalistes et guerriers. Cette foule a violemment battu le chauffeur d'un tracteur apportant des matériaux. Cette fois, la police serbe brillait par son absence et les soldats occidentaux, témoins de la scène, ne sont pas intervenus. Les deux seules maisons qui avaient été légèrement retapées cette semaine ont été de nouveau rasées par les Serbes dans ce village qui comptait 100% de musulmans avant la guerre et qui est situé en bordure de la ligne de partage dessinée à Dayton. Le projet ne comportait ni expulsion de Serbes ni danger d'infiltration de soldats musulmans en profondeur en République serbe. Ces incidents illustrent une politique de séparation ethnique qui ne souffre aucune exception. Diplomates et organisations humanitaires effrayées par cette détermination ne savent comment organiser le rapatriement de près de 3 millions de personnes, musulmans, croates et serbes, jetés sur les routes pendant la guerre et qu'aucun pays européen ne veut plus avoir dans ses murs. À Belgrade, l'opposition à Milosevic continue à descendre manifester dans les rues malgré les interdictions des autorités serbes. Il suffit pour les manifestants de trouver une bonne raison pour sortir dans la rue. Après avoir promené leur voiture, puis leurs animaux domestiques, les opposants ont organisé ce week-end l'élection de Miss Résistante. Choisies sur les photos des manifestations publiées dans la presse, les candidates... les candidates Miss ont défilé, soutenues par des milliers de manifestants, devant le barrage des flics. C'est une jeune étudiante en mécanique qui a été sacrée Miss Résistante. Les étudiants en ont profité pour élire Mister Flic Bâton parmi le cordon des policiers qui empêchaient la manifestation d'aller plus loin. Au Nigeria, la fille de Moshood Abiola demande l'aide de la communauté internationale. Élu président du pays en 1993, son père, malade, est toujours détenu au secret depuis juin 1994. Élu démocratiquement président du Nigeria en juin 1993, le philanthrope Moshood Abiola a été emprisonné en juin 1994 par la junte militaire au pouvoir. Depuis, il est pratiquement coupé de tout contact avec le monde extérieur. Sa fille, Vorohala, qui craint pour la santé physique et mentale de son père, demande une intervention de la communauté internationale. Selon Amnesty International, Moshood Abiola est privé de tout suivi médical alors qu'il souffre d'une maladie rénale et d'hypertension. Mais personne ne s'occupe de mon père, dit Vorohala. Je ne sais même pas s'il est vivant. En France, une jeune femme jugée pour avoir hébergé un sans-papiers. En plus, elle a été licenciée à la suite de son arrestation. C'est l'histoire de Jacqueline qui a comparu devant le tribunal correctionnel de Lille pour avoir hébergé un ami zaïrois sans papier. Elle tombe sous le coup d'une ordonnance qui, je cite, « condamne toute personne qui aura, par une aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou l'hébergement d'un étranger en situation irrégulière. Elle risque 6 ans de prison et jusqu'à 200 000 francs d'amende. » Jacqueline vit avec un Zaïrois, Claude, et ils ont une petite fille, Priscilla, et puis ils élèvent également deux nièces de Claude, dont il est le tuteur. Le 26 novembre, elle devait être témoin au mariage de son amie Hélène, avec un autre Zaïrois en situation irrégulière en France, mais domicilié en Belgique. La veille de la cérémonie, la famille d'Hélène, bien sympathique, soupçonnant un mariage blanc, avait alerté le procureur de la République. Le parquet avait donc suspendu le mariage. Pour avoir hébergé Tony et Hélène, Jacqueline est arrêtée dans la matinée du 26 novembre. « C'était, dit-elle, comme dans les films. On m'a fouillée toute nue. Il voulait savoir où était Tony. Il me reprochait qu'il était clandestin. Je pensais qu'il était en règle. Je n'allais pas lui demander sa carte de séjour avant de recevoir chez moi. » Pendant 24 heures de garde à vue, Jacqueline oscille entre la rage et les larmes. J'ai pensé faire une grève de la faim. Je voulais sortir de là. Je voulais voir ma fille. Il me tutoyait. Il disait que Claude, mon mari, m'avait fait un enfant uniquement pour les papiers. Enfin, le soir, le jour de son arrestation, la police fait une perquisition avec elle dans son appartement. Son compagnon et ses enfants l'attendent. Les policiers se baladaient avec des armes. Ils faisaient du bruit avec les melottes. Ils ont cassé un lit d'enfant en marchant dessus. Ils ont demandé à ma fille où était Tony. Puis les policiers repartent en menant toujours Jacqueline avec eux. Le lendemain matin, elle est relâchée avec une convocation au tribunal. Elle était chargée d'études dans une organisation de crédit du groupe Primo La Redoute. Son arrestation spectaculaire lui vaut d'être licenciée. Les policiers ont dit à mes supérieurs que j'avais commis un grave délit et que j'ai risqué la prison. Ils n'ont pas voulu prendre de risques. Hier, cependant, le procureur n'a requis aucune peine, considérant quand même que ce n'était pas un crime tellement grave et que surtout le caractère intentionnel de l'infraction n'était pas prouvé. En attendant, Jacqueline est traumatisée et puis elle est au chômage. En Suisse, 5 actions pour promouvoir l'égalité à Genève. Depuis que la loi sur l'égalité entre hommes et femmes dans ce qui concerne le travail est passée en juillet de l'année dernière, en juillet 1996, plusieurs actions sont mises en route pour promouvoir réellement cette égalité. Et les associations féminines ou féministes peuvent compter maintenant sur le soutien de la loi fédérale sur l'égalité qui a débloqué 1,5 million pour soutenir des projets locaux favorisant l'égalité sexuelle dans le travail, la formation ou encore la réinsertion sociale. En 1997, un crédit supplémentaire de 2 millions sera également alloué. Plus d'une centaine de projets sont arrivés et sur ces 115 émanaient de Suisse romande, 5 à Genève ont été acceptés pour une somme allant au total de 300 000 francs. Il s'agit de la boutique de vêtements de seconde main, Les Fringantes, tenues par SOS Femmes, qui ainsi peut mieux suivre et aider les femmes qui cherchent une réinsertion sociale. C'est également le cas des syndicats de personnes actives au foyer, le SPAF, qui lance un projet de formation professionnelle en économie familiale. Il s'agit également d'un projet de l'orientation professionnelle pour aider les pionniers et les pionnières, c'est-à-dire ceux et celles, les jeunes qui choisissent un apprentissage où hommes ou leur sexe est très peu représenté. Et puis l'ensemble des syndicats Genevois qui mènent une campagne de promotion de la loi sur l'égalité auprès des travailleuses de toutes les branches. Une permanence téléphonique gratuite sera assurée pour diffuser des informations, recueillir des témoignages de discrimination sexuelle dans la sphère professionnelle. Enfin, le comité contre le harcèlement sexuel pourra s'offrir, grâce à la subvention, un spot TV diffusé en mars. Là encore, le message délivré aux femmes sera simple. Faites valoir vos droits. Toujours en Suisse, Greenpeace part en guerre contre Nestlé en ce qui concerne les aliments transgéniques. Engagé dans une campagne contre les aliments transgéniques, Greenpeace a manifesté dans plusieurs pays européens, dont la Suisse. On a organisé devant Nestlé à Vevey un repas, un pique-nique biologique naturel sans aliments transgéniques. Cette campagne a donc été lancée dans une dizaine de pays européens. Donc elle vise les aliments transgéniques et en particulier les trois géants de l'alimentaire, Nestlé à Vevey, le groupe français Danone à Paris et l'anglo-néerlandais Unilever à Bruxelles. Ainsi, une trentaine de manifestants de Greenpeace se sont réunis devant les pelouses de Nestlé, du siège de Nestlé à Vevey, pour un repas naturel. En consommant des aliments biologiques, ils entendaient protester contre l'utilisation de soya transgénique dans les produits de la multinationale. Ils ont festoyé sous le slogan « Un menu non manipulé, naturellement, pas par Nestlé ». Le groupe écologiste réclame l'interdiction de la vente d'aliments issus de génie génétique tant que les effets sur la santé, même à long terme, n'ont pas été complètement exclus. Greenpeace dénonce l'attitude de la société américaine Monsanto qui produit le soya transgénique et un herbicide assorti de Nestlé et des autres groupes multinationaux qui lancent sur le marché de tels produits. Les écologistes fustigent également la décision de l'Office fédéral de la santé publique d'autoriser la vente de produits transgéniques, entre autres le soya et la vitamine B12. Selon un porte-parole de Nestlé, la multinationale s'en tient à sa position. Pour elle, bien sûr, l'utilisation de ces produits transgéniques est inévitable et d'autant en plus, elle est inoffensive. Par exemple, les nouvelles manipulations du soya visent à le rendre résistant à certains herbicides, produits d'ailleurs par une maison filiale de Nestlé, mais passons. Des manifestations similaires ont eu lieu donc dans d'autres pays. L'organisation Greenpeace a mené des actions devant les sièges de Nestlé en Autriche, en Espagne, en Italie, en Allemagne et en République tchèque. 5 tonnes de soya ont été déposées devant le siège bruxellois d'Unilever. Le groupe anglo-néerlandais était aussi visé par des manifestations au Luxembourg à Helsinki. En automne dernier, les filiales allemandes de Nestlé et d'Unilever avaient décidé de ne pas utiliser du soya transgénique face aux protestations des consommateurs. À Paris, des militants ont grimpé sur la façade du siège de Danone et ont placé une grande banderole proclamant de l'authentique pain du génétique. La police est intervenue pour interrompre la manifestation. La campagne fait suite à l'échec du Parlement européen pour obtenir un étiquetage clair des aliments transgéniques et de demander une séparation entre aliments et aliments traditionnels. En Suisse, les produits génétiquement modifiés ne devraient pas être annoncés comme tels sur l'emballage jusqu'à la fin 1997. Alors soyez très très vigilants. Da 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 da. rubrique, dans notre rubrique des horreurs, histoire terrible et navrante qui s'est passée dans le magnifique Val d'Hérens. Une petite fille a été violée par ses ongles et montrée du doigt dans toute la vallée pour cela. C'est l'histoire de Séverine. En 1993, elle a 12 ans. Et on lui offre une vache. Elle est toute contente, elle adore les animaux et elle la met dans une étable où elle va s'en occuper. Ses oncles, deux hommes originaires du Portugal, vivent dans la maison d'à côté et pendant 3 ans, ils vont profiter de ses passages à l'étable pour la violer, toujours sous la menace de la violence, soit sur elle, soit de tuer sa vache, son animal favori. Et pendant 3 années, elle s'est tue et elle a supporté ces violences, ce viol, premièrement par son plus jeune oncle, ensuite par le deuxième. Au printemps passé, elle a 16 ans, et suite à une émission de télévision sur l'inceste, la jeune fille ose en parler à sa meilleure amie. Ensemble, elles vont trouver la médiatrice de l'école, puis l'office des mineurs, toujours en cachette. Depuis, la famille a quitté Lana pour Evelyne. Une habitante du village est révoltée. Les gens se sont mis à causer. Ils disent que c'est elle qui avait cherché à séduire ses oncles. Je suis mère de 2 enfants. Si je devais faire la loi, je les tuerais. Les deux hommes ont avoué, c'est vrai, ils ont forcé cet enfant, sans égard pour son jeune âge, ils l'ont à moitié étranglée contre la vache, parce qu'elle cherchait à résister. Les tantes, elles, n'ont pas été contentes du tout, quand les parents de Séverine leur ont montré les traces de strangulation sur le cou de leur fille. Les tantes se sont insurgées, c'est bien sûr la gamine qui les a provoquées. Le jugement est tombé, 3 ans et demi, uniquement 3 ans. De prison ferme pour 3 ans de violence. Les parents, eux, ont retiré leur plainte. Ils ont réussi à obtenir 25 000 francs de dommages et intérêts. Ils n'ont donc pas assisté au procès, laissant leur fille seule devant l'opprobre de toute la vallée. Ce viol a provoqué, non seulement le viol, mais également le jugement, a provoqué de nombreuses indignations, entre autres celle de la journaliste Myriam Mevly, qui, dans la page Opinion du Nouveau Quotidien, s'indigne. En effet, dit-elle, on sait désormais que par là-haut, dans ce Val d'Hérens magnifique, le viol répété d'une fillette vaut 3 ans et demi de prison. Après une escalade incroyable dans l'abus, dont ce jugement constitue le choquant épilogue, pourquoi vraiment, pourquoi se gênerait-on ? Il faut le constater, la victime de cette tragédie familiale et villageoise a été trahie à toutes les étapes de sa douloureuse expérience. Les deux violeurs d'abord, jeune oncle à l'instinct bestial, cuisèrent non seulement de leur force sur un enfant de 12 ans, mais aussi pour la contraindre de menacer ce qu'elle aimait, sa vache. Il faut un instant imaginer le désarroi de cet enfant devant la brutale atteinte à sa personne, pour mieux apprécier le système de défense des accusés qui auraient été provoqués par les attitudes équivoques de leur victime. On ne croyait plus possible qu'un avocat s'autorise à plaider la provocation d'une enfant pour minimiser l'abjection de 2 adultes. Mais non, l'avocat Maître Jo Critin n'a pas reculé devant l'obstacle. Il faut dire, autre abus, que les épouses valaisannes des 2 Portugais violeurs avaient eu soin pour laver leur honneur de souiller celui de la petite, avec succès puisque le village non seulement n'y avait vu que du feu, mais en avait rajouté, au point à voir Séverine de la regarder comme une bête. Séverine a été également trahie par les siens qui ont choisi de monnayer leur retrait de plainte contre un joli magot plutôt que de réclamer justice aux côtés de leur fille. Aux yeux de la famille, la souffrance de Séverine vaut uniquement 25 000 francs. Devant tant de bassesse, on se serait senti soulagé de voir 3 magistrats qu'on part volontiers des attributs de l'équité tabés sur la table et accorder à Séverine réparation pour le mal absolu qu'on lui a fait. Non, à côté de toutes les trahisons abjectes qu'elle a subies dans cette belle vallée, l'insulte de ce verdict n'est pas la moins choquante. Et autre histoire de viol, c'est un fribourgeois de 52 ans qui a admis avoir entretenu des relations sexuelles avec sa fille adoptive alors âgée de 12 ans. Il a été condamné à 3 ans de prison, lui aussi. Le père devra payer une indemnité de 15 000 francs à sa fille pour tort moral. Là aussi, la dignité des jeunes filles est vraiment mesurée très bas. En Suisse, les familles ne sont pas un coût, elles sont un apport économique. Dans une étude, le mouvement populaire des familles démontre l'importance économique des familles qui constituent le moteur de l'économie nationale, tout en étant un acteur ignoré. Chaque fois que les associations familiales formulent des revendications pour améliorer les conditions de vie des ménages, les réponses habituelles des dirigeants économiques et des partis bourgeois, c'est que c'est trop trop cher. Les coûts sociaux frisent les limites en Suisse. Les familles pèsent déjà lourdement dans les budgets publics. Les déficits des collectivités ne permettent pas des largesses supplémentaires. Ce refrain, le mouvement populaire des familles l'a tellement entendu qu'elle a décidé de lancer une étude sur l'importance économique des familles. La recherche s'est effectuée sur 4 axes, consommation, protection sociale, travail domestique et la santé. Il en ressort que, en ce qui concerne la consommation des familles, elle représente des dépenses pour 100 milliards de francs, soit la moitié de la consommation nationale. Du côté de la protection sociale, les familles participent à son financement directement et indirectement pour 60 milliards. Si on prend en compte l'évaluation économique du travail domestique selon des méthodes mises au point en Allemagne, les ménages produisent pour 145 milliards d'économies domestiques et les familles représentent 100 milliards dans ce total par année, soit l'équivalent de la moitié du produit national brut. Enfin, les ménages financent à hauteur de 20 milliards les dépenses de santé publique, soit 63% du total qui s'élève à 32 milliards. Il est intéressant de noter que la participation des ménages s'est multipliée par 4 en 20 ans, alors que les dépenses ont connu un accroissement également d'un peu moins de 4. C'est donc la preuve, les familles rapportent et il serait bon maintenant de s'occuper un peu de les soutenir. Toujours en Suisse, un employé de l'administration fédérale sur 5 est une femme. La représentation des femmes au sein de l'administration fédérale avance, lentement mais sûrement. Leur proportion progresse de 2,5% chaque année. Elle représente aujourd'hui donc 20% du personnel fédéral. Mais selon le communiqué du département fédéral des finances, les femmes occupent toujours des postes de cadre assez peu élevés et elles sont très peu nombreuses à être cadres supérieurs. Et pour terminer notre chapeau, cette fois-ci, je l'ai donné un chapeau du cochon, toute catégorie. Et c'est pour la Tribune de Genève qui, dans son numéro du mardi 28 janvier, plonge dans les clichés antisémites à propos de ce qu'on appelle les fonds juifs. Ça commence à la page Point Fort, où un titre pose la question « Peut-on être juif et helvète ?» Ah, quelle contradiction! En cas où vous ne le sauriez pas, juif n'est pas une nationalité, tout au plus une religion ou l'appartenance à une histoire collective qui laissa des traces dans la vie des individus. On peut donc être très bien juif et citoyen de n'importe quelle partie du monde. Pour votre gouverne, messieurs de la Tribune de Genève, rappelez-vous que malgré des événements douloureux, il y a eu et il y a toujours des juifs allemands ou polonais. Mais le journal ne s'arrête pas là et un peu plus loin, on peut lire dans un interview de Georges-André Chevalat, historien et ancien conseiller fédéral, et là je cite « Je tiens les juifs pour des gens intelligents, supérieurs à la moyenne, quoi qu'on en dise, sur une éventuelle classification des races. » Fin de citation. Et le mot est lâché, les juifs sont une race. Voilà une affirmation de triste mémoire qui fleure bon la propagande nazie et ses recettes pour identifier le juif représentant d'une race inférieure avec toutes ses caractéristiques précises. Le nez crochu, les doigts pointus, le sens des affaires et l'intelligence et j'en passe. Monsieur Chevalat, si vous l'ignorez, je tiens à vous rappeler que la notion de race est la plus floue et quoi qu'on en soit, la définition ne s'applique absolument pas aux juifs. Les juifs ne forment en aucun cas une race à part. Ils sont comme vous, monsieur Chevalat, des caucasiens bon teint. Et je tiens encore à vous dire que je connais des juifs noiraux, blonds, grands, petits, intelligents ou bêtes. Quant à vous, il n'y a pas de discussion. Vous êtes de la race des cochons, racistes et réactionnaires. C'était les nouvelles sur la pleine lune, 93.8 MHz. Dans quelques instants, c'est les coups de cœur de Marjolaine. A tout de suite, restez à l'écoute sur 93.8 MHz. La rue est là.
Alors ne quittez pas l'écoute, dans une minute, c'est le Memento de Marjolaine.